À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 20 mars, lentement mais sûrement. On s'en va vers le printemps, je pense que le printemps arrive aujourd'hui, le 20 mars, 17h cet après-midi, donc on est passé à travers un autre hiver. Je m'en réjouis, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais il me semble que les hivers, même si ça n'a pas été l'hiver le plus difficile, il me semble que je les trouve de plus en plus longs. Bon, fin de ma petite bougonnade personnelle. On va parler de ce qu'on a au menu cette semaine. On va s'entretenir, on s'est entretenu en fait ce matin, même s'il bénéficiait d'une journée de traitement à l'entraînement du Rocket, avec le gardien du Rocket, Caden Primo. Donc, on va vous présenter ça dans quelques instants dans notre segment sur la Ligue américaine. Évidemment, la grosse nouvelle dans la LHJMQ la semaine dernière, ça a été... la présentation de Mario Cecchini, le prochain commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La conférence de presse a eu lieu jeudi dernier, le 16 mars. Alors évidemment, je me suis déplacé pour aller à la conférence de presse et j'ai réalisé une petite entrevue, pas très longue, mais format balado, 5-6 minutes avec celui qui va devenir le nouveau commissaire. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Et on va aller faire un tour également du côté de Val-d'Or, parler à l'entraîneur-chef et directeur général des Foreurs, Maxime Desruisseaux. Les Foreurs sont impliqués dans une course pour l'obtention de la dernière place disponible pour les séries éliminatoires et sont aux prises avec un sérieux problème de gardien de but. Ils ont utilisé 8 gardiens différents cette année. Ça fait 2 ans de suite qu'à Val-d'Or, le dossier des gardiens de but... Pardon. Le dossier des gardiens de but, c'est pas facile. Et alors, on va faire un brin de jasette avec Maxime Desruisseaux. On vous présente ça un petit peu plus tard. On va revenir un petit peu sur ce qui se passe dans les séries éliminatoires au niveau M18. Ça bat son plein. Les Patriotes de l'UQTR également, on va en glisser un mot. Le championnat canadien universitaire qui s'est terminé en fin de semaine. Et un petit tour également ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest pour... les ligues juniors canadiennes. C'est la dernière semaine du calendrier régulier. Les saisons se terminent en fin de semaine dans les 3 ligues juniors et on est à une dizaine de jours tout au plus du début des séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey. Alors, on parle évidemment beaucoup du Rocket de Laval. Le Rocket est en plein milieu d'un séjour à domicile. Il y a eu 2 matchs vendredi et samedi contre les Comets de Utica. Une victoire du Rocket 4-1 samedi qui avait suivi la défaite de 3-2 de vendredi soir. Et rappelons qu'en début de semaine également, mercredi dernier, les Americans de Rochester avaient infligé au Rocket une première défaite par blanchissage en plus de 100 matchs. Le Rocket qui n'avait pas perdu par jeu blanc depuis le mois de janvier 2022. S'est incliné 2-0 contre les Americans de Rochester. L'attaque, c'est difficile en ce moment. On a réussi à marquer plus de 3 buts pour la première fois en 7 matchs samedi après-midi devant une salle comble à la Place Belle. 10 088 spectateurs, la meilleure foule de la saison. De sorte qu'au moment où on se parle, là, je vais mettre mes lunettes, question de bien certain là, que je n'induis pas personne en erreur. Le Rocket est toujours au 6e rang de la section Nord. On rappelle, les 5 premières équipes se qualifient pour les séries. Le Rocket accuse présentement 1 point de retard sur Belleville, qui est 5e, et 2 points de retard sur Rochester, qui est 4e. Rochester a 2 matchs de plus à jouer et Belleville a 1 match de moins à jouer. C'est-à-dire que le Rocket a un match en main sur les Sénateurs. Il ne faut pas oublier Cleveland, qui est juste derrière 1 point derrière Laval, et il y a 2 matchs en main pour Cleveland sur le Rocket. Il reste d'ailleurs un affrontement très important le 7 avril prochain contre les Monsters à la Place Belle. Donc, le Rocket est toujours dans la course aux séries éliminatoires avec ses 60 points en 61 matchs. Ce ne sera pas facile, mais le Rocket est là. Toronto est assuré de participer aux séries dans la section Nord. Puis par la suite, entre Utica, qui est deuxième à 68 points, et Cleveland, qui est dernier à 59 points, bien, il n'y a que 9 points d'écart là, qui séparent les 6 équipes. Et 4 de ces 6 équipes-là vont participer aux séries. 2 seront éliminées. Le Rocket, cette semaine, 3 matchs, 2 à domicile avant de prendre la direction du Manitoba pour un match dimanche prochain. Le Rocket qui reçoit de la visite un peu plus rare, les Islanders de Bridgeport sont de passage mercredi. Les Islanders qui sont au 6e rang, les Culottes eux aussi pour une place en série dans la section Atlantique. Vendredi, ce sera la visite des meneurs de la section centrale, une équipe de l'Association de l'Ouest, les Admirals de Milwaukee qui effectue un voyage au Canada cette semaine. Milwaukee qui est à Toronto mercredi, à Laval vendredi et à Belleville samedi. Et dimanche prochain, le Rocket s'en va à l'étranger. En fait, va quitter samedi pour le Manitoba pour une séquence. Un dernier long voyage de 4 matchs qui va mener l'équipe au Manitoba pour 2 rencontres à Rockford et à Milwaukee. C'est une séquence qui va être extrêmement éreintante pour le Rocket. Si le 1er avril, au retour de ce match à Milwaukee, le Rocket est toujours dans la course, là, à partir de ce moment-là, les 4 des 5 derniers matchs seront présentés à domicile. Nouvelle dans l'entourage du Rocket, on a confirmé ce matin, quand je dis ce matin, je parle du 20 mars plutôt, la venue de Emil Heinemann avec le Rocket de Laval. Emil Heinemann, c'est ce joueur qui a été acquis de l'organisation des Flames de Calgary l'an dernier dans la transaction qui avait envoyé Tyler Toffoli à Calgary. Alors, vous vous souvenez, à ce moment-là, ça s'était fait le 14 février 2002. Le Canadien qui avait échangé Tyler Toffoli en retour avec Tyler Pitlick. C'est-à-dire que le Canadien a reçu Tyler Pitlick, un choix de première ronde de 2022 et les droits sur Emil Heinemann. Heinemann avait été un choix de deuxième ronde des Panthers de la Floride. Il a passé la dernière année à Leksand en Suède. En fait, il a passé les 3 dernières années à Leksand en Suède, d'où il est originaire. Et là, il va s'amener pour faire ses débuts en Amérique du Nord. Il était à l'entraînement du Rocket ce matin. Est-ce qu'il sera en mesure de jouer dès mercredi? C'est bien possible. Le Rocket, qui, on le sait, est aux prises avec un manque de ressources en attaque. Ce n'est pas évident présentement pour le Rocket avec tous les rappels qu'il y a à Montréal. Autre joueur qui s'est amené aussi dans l'entourage du Rocket la semaine dernière, c'est le défenseur Jaden Struble, qui lui a terminé sa carrière universitaire avec les Huskies de Northeastern. Alors, Struble a rencontré les médias vendredi, s'est acclimaté un peu avec l'équipe, s'entraîne. Est-ce qu'il sera en mesure de jouer le prochain match mercredi ou peut-être vendredi? En ce moment, avec le Rocket, il y a 9 défenseurs, j'allais dire en santé, mais Nicolas Beaudin a été laissé de côté là, pour une blessure au cours des 2 matchs du week-end. Il était à l'entraînement vendredi matin, Nicolas Beaudin, avant de se blesser. Il y a plus de ressources présentement en défensive qu'en attaque là, pour le Rocket. Alors, la venue de Heinemann ne sera certainement pas nuisible. Il a marqué 8 buts, obtenu sa passe pour 15 points en 35 matchs, mais dans une ligue évidemment de très haut calibre. Heinemann, qui a 21 ans, avait été, comme je l'ai dit, un choix de deuxième ronde des Panthers. Lui était passé dans la transaction qui avait envoyé Sam Bennett de Calgary en Floride. Alors, il a fait partie de cette transaction-là. Alors, c'est déjà sa 3e organisation, Heinemann. Est-ce qu'il sera en mesure de s'établir avec l'organisation du Canadien? On verra. C'est un ailier gauche de 6 pieds, 194 livres. Alors, on va le découvrir possiblement au cours des prochains matchs, Emil Heinemann. Je vous le disais un peu plus tôt, on a fait un brin de discussion avec le gardien Caden Primo ce matin pendant la séance d'entraînement de laquelle il a été épargné. On a rappelé d'ailleurs Joe Verbeek de Trois-Rivières là, pour s'assurer d'avoir un deuxième gardien à la séance d'entraînement ce matin. Primo a joué beaucoup dernièrement. Là. Il a participé à 19 des 21 derniers matchs du Rocket. Il est là presque tout le temps, sauf pour 2 matchs contre les Sénateurs de Belleville. Il a été de tous les matchs. Philippe Desrosiers n'a pas eu beaucoup d'action à se mettre sous la dent. Dans le cas de Primo, c'est vraiment l'homme de confiance présentement. Et une des raisons pour laquelle je tenais à lui parler, c'est qu'il va franchir pour la première fois, là, vraisemblablement, le cap des 35 matchs cette saison dans la Ligue américaine. Il en avait disputé 33 en 2019-2020. Il en avait disputé 33 en 21-22. Et là, il est rendu à 32 matchs. Alors, avec la charge de travail qui reste d'ici la fin de la saison, ce sera la saison la plus occupé là, pour Kaden Primo depuis qu'il est devenu un joueur professionnel, voilà maintenant 4 ans. Alors, l'entrevue, évidemment, est en anglais. On va résumer les propos de Kaden Primo au retour. Voici donc cet entretien que j'ai eu ce matin avec le gardien du Rocket de Laval.
Well, Kaden, first of all, thanks for being with us on a therapy day. How would you qualify the last month and a half or so? I mean, you played 19 of the last 21 games. It's your most busiest season since you turned pro. So how things are going right now with you?
Yeah, it's a lot of hockey. It's a lot of fun. Especially, you know, this is the best time of year. It's a playoff push, you know, getting ready for playoffs. So it's been good and definitely good to get into a routine, a rhythm.
With all the calls from Montreal and the injuries, you've been, except maybe on the last game on Saturday, but the support of the attack was a bit difficult, I would say, in the last 2 weeks or so. So this is not giving the goalie a lot of margin as far as goal against. So would you say it's a bit tougher in those circumstances or?
No, you always want to give the team the best opportunity to win. You never want to, you know, let in too many goals. Yeah, we were snake bitten for a little bit. And you know, when you're not scoring, you start to tense up and grip the stick a little too much. So it was good that the guys were rewarded for their, you know, their hard work.
Last four games, I think it's 952 percentage, save percentage. So you must be pleased the way things went for you with those four games.
Yeah, like I said, I'm feeling good. We're playing well. You know, we're trying to, you know, get ready for the playoffs. We're making that final push.
Okay, it's 11 games to play. It's going to be tough, we know, especially with a couple of road games in the Western Conference. Would you say that the feeling is good right now in the dressing room as far as being in the playoff? And maybe when those playoffs are going to come, you're going to have some help from Montreal with a couple of guys coming back and maybe make a push like last year?
Yeah, exactly. You know, with, you know, there's so many uncontrollables, especially during a long season. We're missing some guys, but, you know, so the guys that we have called up have stepped up as well. You know, sometimes we may not get the result, but we're playing well and things are going well. So that's definitely what you want, you know, to build on and to have that kind of momentum leading into playoff push, whatever it may be.
Would you say the preparation is different coming with teams that you don't see very often? It's going to be Bridgeport, it's going to be Milwaukee, it's going to be Manitoba. It's not like Belleville or Utica. Would you say it's a bit different? And it's good sometimes to play other teams?
Yeah.
25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano Fafar se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Hey.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission, une série documentaire originale à regarder dès maintenant sur Crave.
It's definitely good to, you know, get a little bit of a different team, obviously, when you're playing teams a lot. You know, things can kind of get, you know, not boring, but it might just, you know, not get as exciting or what may it be. So, yeah, when you're facing new teams, new guys, you know, and especially I've been reiterating it a lot, but during a playoff push, you know, it's really exciting and everyone's stepping up.
If you compare to last two seasons, you had the chance to play 12 games with the Canadiens 2 years ago. Last year and the year before, four games. This year, you only played 20 minutes in the NHL. Would you say it's tough on I would say on the moral, but you want, of course, to grow as season goes by. Did you add the thought that you would play more games this year with the Canadiens at the start of the season?
No, you try not to put expectations on a season, on a year. Obviously, you can have goals or whatever, but yeah, I mean, I'm just trying to get better every day. You want to be ready for when your name is called. And, you know, anytime you can get experience, it's great. But, yeah, obviously playing a lot is good as well.
Stéphane Waite, the former goalie coach in Montreal, used to say with us at RDS, he's working with us, that for a goalie, sometimes it's 150 games in the American Hockey League that could be the goal for being ready for the next level. I was counting, you're something like 140 right now if you count the playoffs of last year. So would you say now that next year it's the year that you want to make that step? You feel ready now? Or?
Yeah, obviously, you know, just going to finish out the season, whatever, and wherever that may be, whatever happens. Like I said earlier, there's a bunch of uncontrollables. But, yeah, I'm excited for the end of this year, and then we'll you know, look ahead after.
Jaden Struble came. He's a guy from Northeastern where you were playing your NCAA hockey. I don't know if you met him when you were there, because he was like a rookie or something. But what is the best advice you can give to a guy like that coming from NCAA in a playoff push, as you said, to be ready for playing at this level?
Yeah, I didn't know him too much. I had left when he got there. So, but just for advice, I'd say, you know, don't try to do too much. You know, it's a lot of emotions. It's exciting. It's nerve wracking. It's all these different emotions. You know, signing and taking that next step. But he's more than ready. He's excited. He's gelling with the guys really well. So. Yeah, it's good for him, and we're happy to have him. Looking forward to whenever he gets in there and see how he does.
Of course, you played with Jordan Harris. He's not the same kind of defenseman, but can you make like a kind of analyst between those two, since they were your Jaden was not your teammate, but Jordan was. Is he the same kind of guy? Or
yeah, obviously they're great guys off the ice, and great hockey players on the ice. Like I said, I wasn't with Jaden, so I don't want to say anything comparing them, but just from what I have watched, you know, they're both you know, great skaters, good with the puck, offensive minded, but can also you know, play well defensively.
There's not a lot of back-to-back games since till the end of the season. I remember Joel Bouchard was saying when you were younger that there's no way you can play two games in less than 24 hours. But now you look at the schedule, it's Wednesday, it's Friday, it's Sunday, it's Tuesday. So you can play all the games?
Like I said, you got to be ready when your name is called.
Yeah. You don't mind at all to play those two games in less than 24 hours like we did the past weekend?
No, for sure. You want to play them all. So, like I said, you just want to make sure you're taking care of yourself and make sure you're putting yourself in the best position to have success.
Good luck, Jaden. We'll see you on Wednesday at the Bell Place.
Thank you. Merci beaucoup.
Thanks. Bye-bye.
Alors voilà, pour résumer un peu les propos de Jaden Primeau, on a beaucoup parlé de son utilisation. Évidemment, il joue beaucoup, il aime ça. Il a pris part à 19 des 21 derniers matchs. C'est un peu la raison pour laquelle il se reposait aujourd'hui à la séance d'entraînement de l'équipe. Il reste seulement qu'une occasion d'ici la fin de la saison dans les 11 derniers matchs où l'équipe va jouer deux matchs en deux jours, le 7 et 8 avril prochain. Le 7, le Rocket va recevoir Cleveland et le 8 sera à Syracuse. Tous les autres matchs, il y a toujours au moins une journée de congé entre chacun. À l'époque, Joël Bouchard disait « Ah, pas question de faire jouer le gardien deux matchs en moins de 24 heures, ça n'arrivait pas ». Mais cette année, c'est arrivé cinq fois là, que Primo a joué deux matchs en deux jours. Avec la blessure de Kevin Poulin, on a donné deux matchs jusqu'ici à Philippe Desrosiers qui se sont soldés par deux défaites dans le cas de Philippe Desrosiers, des matchs à l'étranger, un à Belleville, un à Belleville, c'était le 18 février et un autre à Springfield le 11 mars. Donc deux départs seulement pour Philippe Desrosiers dans cet espace d'une vingtaine de matchs où il était tout près de l'équipe. Joe Verbeek a eu quatre matchs également avec le Rocket cette année. J'ai l'impression que Caden Primo là, va se taper le gros de la besogne là, dans ces 11 derniers matchs-là, évidemment. Et ça va commencer dès mercredi contre Bridgeport. Pour revenir à l'entrevue avec Caden Primo, ben, on a également parlé de son utilisation de façon générale, nombre de matchs qu'il a joué. Le fait qu'il en a joué moins dans la Ligue nationale cette année, pas très grave. L'important, c'était de prendre l'expérience et de poursuivre son développement. Je lui ai parlé de l'arrivée de Jaden Struble, qui arrive de Northeastern, la même université où lui il a joué. Ils ne se sont pas croisés. Struble est arrivé la saison après que Primo soit parti. Il en avait quand même entendu parler parce qu'évidemment, il a des amis là-bas. Jordan Harris a joué avec lui. Je lui demandais un peu de comparer les joueurs, pas au plan hockey, mais au plan des individus. Il dit les deux se ressemblent à ce niveau. Les deux se sont bien acclimatés, autant Harris avec le Canadien que Struble avec les gars du Rocket depuis qu'il est là. J'ai parlé également de l'aspect qu'on va affronter des rivaux différents au cours des prochains jours. Ça fait du bien, ça fait changement un peu. Il ne dit pas que ça devient plate de toujours jouer contre Utica, Syracuse, Belleville et Toronto, mais ça va faire du bien là, de voir d'autres formations. Bridgeport, c'est une équipe qu'on voit deux fois par année. Milwaukee, la même chose. Manitoba, c'est quatre matchs dans la saison. Manitoba qui est venu à Laval déjà à deux reprises cette saison. Et là, le Rocket qui va se rendre jouer au Manitoba pour les deux matchs, les 26 et 28 mars prochain. Donc, c'est un peu pour résumer ce qu'on a dit avec Caden Primo. Peut-être vous mentionner, pour revenir à Emil Heinemann, il va porter le numéro 19. J'ai hâte de voir s'il sera en uniforme dès mercredi. On le sait là, qu'avec le Rocket, présentement, il manque des éléments importants. On est entré avec Louis Boudon, qui a joué son premier match vendredi. Nolan Yaremko, qui a joué cinq matchs jusqu'ici. Qui a marqué d'ailleurs son premier but en fin de semaine. Et d'autres joueurs, évidemment, qui s'étaient joints un petit peu plus tôt. On pense à Riley McKay, on pense à John Parker Jones. Alors, ce sont des joueurs là, qui profitent du fait qu'il y a des rappels à Montréal, là, comme Harvey Pinard, Belzile, Ilonen, Richard et compagnie. Alors, en ce moment, le Rocket, c'est faible à l'attaque un peu, dans le sens qu'on manque de ressources. Mais en défensive, on a 9 défenseurs avec l'arrivée de Struble. Frédéric Allard avait été laissé de côté lors du match de vendredi. Il a repris une place samedi. Madison Bowie a été laissé de côté. Si on entre évidemment Struble dans l'équation aussi, ben, il y aura un autre défenseur à sortir. Trudeau et Schooneman là, semblent bien établis comme le premier duo de défenseurs. Par la suite, ça peut tourner un peu. Norlinder, Dello, Galipo joue du bon hockey également. Alors, à suivre pour le Rocket. Donc, je vous rappelle, cette semaine, mercredi, nos rendez-vous à RDS, 19h contre les Islanders de Bridgeport, vendredi contre les Admirals de Milwaukee. Et par la suite, le Rocket va prendre la route pour quatre matchs. Joueur de la semaine dans la Ligue américaine, l'excellent Marco Rossi du Wild de l'Iowa. 3 buts, 2 passes en 3 matchs. Et c'est lui là, qui a été choisi l'employé modèle de la dernière semaine. Avant de parler de hockey junior, un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières qui sont virtuellement éliminés. Les Lions de Trois-Rivières qui ont divisé les deux matchs du week-end contre les Everblades de la Floride. Une défaite de 7-5 vendredi, une victoire de 2-1 samedi. Pour ce qui est des Lions, il leur reste 12 matchs à jouer. 4 à la maison, 8 à l'étranger. Les 3 prochains matchs sont à la maison. C'est donc dire que 8 des 9 derniers matchs seront joués sur les patinoires adverses. Les Lions qui ne participeront pas aux séries éliminatoires de la Ligue ECHL. On parle maintenant de hockey junior. Il s'est passé plein de choses. Je vous ai parlé de la nomination. Ben, en fait, pas la nomination, mais de la confirmation là, de Mario Cecchini qu'on a présenté aux médias la semaine dernière comme le nouveau commissaire qui va entrer en fonction le 8 mai. Ça va être au moment où la finale de la Coupe du Président, qu'on appelle maintenant le trophée Jean Rougeau. Le trophée Gilles Courteau. Le trophée Jean Rougeau, c'est pour les champions de la saison régulière. Le trophée Gilles Courteau, ce sera pour les champions des séries éliminatoires. Alors, on va présenter ce trophée-là pour la première fois. Et on a confirmé d'ailleurs à la conférence de presse qu'il n'était pas question de revenir en arrière sur cette annonce qu'on avait faite en décembre dernier, soit celui de changer le nom de la Coupe du Président en trophée Gilles Courteau. Ça va demeurer. Ben, les grandes équipes, les grosses équipes, les quatre grandes formations là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont tous gagné leur match cette semaine. Donc, il y a bien peu de changements au sommet là, de la pyramide de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce sont toujours les Remparts de Québec qui sont au premier rang, les Remparts qui ont gagné leurs 5 derniers matchs, 103 points. Les Remparts, d'ailleurs, qui sont devenus cette semaine la 5e équipe seulement de l'histoire à coller 2 saisons de 100 points de suite. Et ce n'était pas arrivé, ça, depuis Drummondville en 2008-2009 et en 2009-2010. Les Remparts, donc, qui sont à 3 victoires de s'assurer d'un deuxième trophée Jean Rougeau de suite. Ils ont le même nombre de points que les Moussettes d'Halifax, mais ont des victoires de plus. Donc, advenant une égalité entre les deux, c'est Québec qui aurait l'avantage. Dans le cas de Québec, cette semaine, il reste des matchs à Shawinigan et une série aller-retour contre l'Océanique de Rimouski. Pour ce qui est des Moussettes d'Halifax, qui ont aussi gagné leurs 4 derniers matchs, peut-être un calendrier un petit peu plus facile, 3 matchs à la maison contre Charlottetown 2 fois et contre le Cap-Breton. La séquence par excellence, c'est toujours les Olympiques de Gatineau qui ont gagné leurs 21 derniers matchs, les Olympiques qui n'ont pas perdu depuis le 18 janvier, donc ça fait 2 mois. Dernière défaite à Victoriaville le 18 janvier, 5-2. Depuis ce temps-là, la troupe de Louis Robitaille est invincible. Alors, la troupe de Louis Robitaille a atteint le plateau des 100 points. C'est la 4e fois en 50 ans que les Olympiques atteignent le plateau des 100 points en une saison. Les Olympiques ont leur sort entre leurs mains, mais il y a tout un match mercredi contre le Phoenix à Sherbrooke. C'est vraisemblablement ce match-là là, qui va déterminer le premier rang de l'association. Advenant une victoire de Gatineau, prendrait 3 points d'avance avec 2 matchs à jouer le week-end prochain contre Blainville-Boisbriand, sans dire que ce serait dans la poche pour les Olympiques. On peut presque dire que ce serait une formalité. Si toutefois Sherbrooke devait l'emporter, Sherbrooke à 99 points, l'emporter, exemple, en temps réglementaire, prendrait un point d'avance sur Gatineau avec 101 points. Mais Sherbrooke a quand même un week-end difficile le week-end prochain en jouant 2 matchs aller-retour contre les Tigres de Victoriaville, vendredi soir à Sherbrooke, samedi après-midi à Victoriaville. Alors, le Phoenix, qui va bien aussi, a gagné ses 3 derniers matchs. Le Phoenix non plus ne perd pas souvent. Par la suite, l'autre course qu'on suit beaucoup, là, c'est la course pour accéder aux séries éliminatoires. Au cours de la dernière semaine, là, il y a plusieurs équipes qui ont assuré leur qualification. En fait, 14 équipes sont présentement assurées de terminer dans les séries éliminatoires. Et le Titan d'Acadie Bathurst est officiellement éliminé. Le Titan qui a subi la défaite contre le Cap-Breton, et ça, ça a confirmé 2 défaites contre le Cap-Breton cette semaine, ça a confirmé l'élimination du Titan. Donc, le Titan n'est pas en série. Il reste une place à jouer entre Blainville-Boisbriand, Val-d'Or et Saint-John. Présentement, Saint-John est au 15e rang avec 53 points. Blainville-Boisbriand est 16e avec 52 et ce serait les Foreurs de Val-d'Or avec 51 qui seraient exclus des séries éliminatoires au moment où on se parle. Le calendrier de la semaine pour Blainville-Boisbriand, ben c'est 2 matchs contre Gatineau. Alors, c'est loin d'être évident. Les Foreurs de Val-d'Or, c'est 2 matchs contre Rouyn-Noranda. Alors, c'est peut-être un petit peu plus accessible, surtout que les Huskies ont des difficultés présentement. Puis dans le cas des Sea Dogs, ben c'est 2 matchs peut-être un petit peu plus faciles contre Charlottetown et à la maison contre le Titan, la dernière place de la Ligue. Alors, les Sea Dogs sont en bonne position de se qualifier pour les séries. On vous rappelle que s'il y a 9 équipes dans l'Est qui se qualifient pour les séries, la 9e équipe, dans ce cas-ci, Saint-John, va venir se placer dans l'association de l'Ouest pour disputer ses séries éliminatoires. Donc, pourrait se retrouver au 7e rang ou au 8e rang et affronter Sherbrooke et Gatineau en première ronde. Les Foreurs de Val-d'Or, puisqu'il en est question, sont aux prises avec un sérieux problème de gardien de but. On a rarement vu une situation comme celle-là. Au cours du week-end, on a utilisé Julien Letourneau comme gardien de but dans le match contre le Phoenix de Sherbrooke et c'était le 7e gardien différent à être utilisé par les Foreurs. Il y en a même eu un 8e si on compte celui qui était l'adjoint au banc, mais il n'a pas pris part à l'action. On a vraiment beaucoup de problèmes avec les blessures au niveau des gardiens. Ça fait 2 ans de suite là, que le même problème frappe les Foreurs de Val-d'Or. Et c'est peut-être un petit peu ça, combiné évidemment aux échanges qu'on a faits en saison lorsqu'on a laissé aller Alexandre Doucet et Justin Robida. C'est quand même des gars là, qui marquaient beaucoup de buts pour la formation. On a marqué 41 buts depuis le début de la saison en deux, sur les 213 marqués par les Foreurs, et les deux sont partis depuis Noël. Alors, ça vous donne une idée un peu de l'impact que ces deux bonhommes-là avaient. On a perdu le défenseur Kel McCallum également au cours de la période des Fêtes, de sorte que les Foreurs se retrouvent dans cette situation-là. Alors, pour discuter du dossier des gardiens de but et surtout pour discuter, mettre en situation ce qui est la lutte pour les Foreurs, pour les séries éliminatoires. On a fait un brin de discussion ce matin avec l'entraîneur-chef et celui qui est maintenant également directeur général de l'équipe, Maxime Desruisseaux. Il a remplacé, lorsqu'on a congédié Pascal Daou comme DG, donc il est DG par intérim des Foreurs, entraîneur-chef. Voici l'entretien qu'on a eu avec lui ce matin.
Maxime Desruisseaux, les Foreurs de Val-d'Or sont dans une position précaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vous reste deux matchs à jouer, vous luttez pour une place en série avec quoi, 3, 4, 5 gardiens là, sur la liste des blessés, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Si tu nous expliquais un petit peu qu'est-ce qui se passe avec vous présentement?
En fait, c'est une situation un petit peu spectaculaire, on va dire ça comme ça. Là, nos deux premiers gardiens, ben, le gardien numéro un, là, William Blackburn, il s'est déchiré le ligament croisé antérieur, donc sa saison est terminée. Tu sais, c'est un déplacement banal durant un entraînement en plus, donc c'est plate un petit peu. Ce qui arrive en plus, c'est que le timing est moyen. Mathis Fernandez, là, qui lui, il tombe en mononucléose en même temps, donc c'est plate un petit peu. Tu sais, Mathis, là, il reste peut-être, là, c'est difficile de dire le temps là, pour Mathis, mais il reste peut-être 1, 2, 3 semaines là, encore là, avant de revenir. Donc, c'est à suivre. Ensuite de ça, on avait signé, nous, avant les fêtes, on avait 3 gardiens. Puis notre troisième gardien, écoute, il est allé finir la saison là, aux États-Unis, qui est Adam Rouleau. Ouais. On peut pas le recaler, donc ça nous fait mal aussi. Je suis rendu déjà au quatrième, là, mais ouais. Frédéric Cousineau qui est venu remplacer avec nous justement contre les Tigres de Victoriaville il y a 2 semaines et demie, puis il y a un joueur des Tigres qui a tombé sur la cheville, entorse à la cheville. Donc, on a Saro qu'on avait signé aussi avant les fêtes, que lui aussi se remettait d'une chirurgie avant les fêtes. Puis là, on signe tout ça, on est une équipe éloignée, donc on signe tout le temps aussi un gars de la région, au cas où qu'il arrive des choses comme ça. Lui aussi, mais tu sais, la problématique dans tout ça, c'est que là, les séries collégiales 3, les séries junior 3 sont commencées. Puis les gardiens qu'on a sous la main sont présentement en playoff. Donc, tu sais, ils sont gentils d'un côté, ils veulent nous faire plaisir, mais de l'autre côté, tu sais, je les comprends aussi de vouloir garder leur gardien. Puis tu sais, la semaine passée, on a Mathis Lucie là, de Granby, que je les remercie grandement de nous l'avoir laissé, mais tu sais, il a été élu joueur de la semaine, gardien de but, mais on ne fait pas l'avoir le dernier match parce qu'ils perdaient 0-1 en série, c'est normal qu'ils voulaient leur gardien. Donc, situation un peu qui sort de l'ordinaire, mais les gars s'en font pas trop, ils jouent avec ça. Puis, pour vrai, je leur lève mon chapeau parce qu'ils les accueillent comme si c'était, je veux dire, comme si c'était Carey Price. Puis les gars, ils se sentent bien, mais c'est une situation qui est pas très, très super. Là.
Ben, question toute niaiseuse, qui goal demain pour les Foreurs?
Ben, écoute, là, tu sais, puis ça, c'est l'autre chose. Je suis en constante communication aussi avec la Ligue parce que présentement, c'est des gardiens d'urgence. Ils sont même pas sur notre liste parce que, tu sais, tous ceux que je t'ai nommés, ouais. Absolument, les équipes juniors, quand tu as 6 gardiens sur ta liste, ça devrait être correct. Là. Présentement, tu sais, il faut que la Ligue, c'est en constante communication avec Pierre Leduc parce que, tu sais, il faut qu'il approuve nos gardiens d'urgence. Mais regarde, on a signé Julien les tourneaux là, le dernier match, puis là, il est disponible pour demain, donc ça risque fortement d'être lui, là.
Puis là, ben, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le droit de perdre en même temps si vous voulez participer aux séries éliminatoires avec la victoire des Sea Dogs hier après-midi. Ça vous place non seulement dans une situation où, bon, c'est pas le fun de jouer avec des gardiens de réserve, mais en plus, c'est presque des matchs en lendemain pour vous.
Là. 100%. On a une course à finir là, avec St. John, nous, Blainville. C'est extrêmement serré. Nous, on joue un home and home, comme on dit, là, avec Rouen Aranda. Donc, ça va être, c'est pas la situation idéale, mais en même temps, les boys, on veut tous faire les séries, puis on va donner ce qu'on a donné, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est pas la situation idéale, mais écoute, on a un job à faire, puis tu sais, moi, j'ai adoré, là, Julien Letourneau, il était rappelé en urgence, c'était son premier départ dans LHJMQ. Tu sais, c'est beaucoup des choses comme ça. Tu sais, ouais. Mathis Lucie, c'était son premier départ dans LHJMQ. On a une course à finir, mais les gars, ils savourent les moments, c'est des belles opportunités pour eux. Puis Julien est rentré dans mon bureau après la game de Sherbrooke, puis il dit Max, il dit, si ça fonctionne, je vais être dans le net mardi. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des gars qui apprécient ces moments-là.
Même s'il venait de recevoir 54 lancés du Phoenix de Sherbrooke, là, c'est ça?
On va dire les vraies affaires. C'était peut-être pas le baptême de feu qu'il aurait espéré, mais tu sais, il va falloir dire qu'il a joué contre Joshua Roy, qu'il a joué contre Tyson Hines. Puis pour vrai, il a bien fait ça. Là, le Phoenix, il a une super équipe. Il a super bien fait ça, mais tu sais, il est content d'être ici. Ça vaut le moment. Il était sur la glace ce matin, pratiquait avec nous. Donc, ça risque fortement d'être lui.
T'as-tu trouvé un adjoint aussi?
Écoute, j'en ai. ça, c'est le deuxième défi. Je suis chanceux parce que le petit gars de la région que je te parle, là, qui est Nathaniel Malenfant, il joue dans l'HPS là, ici à Val-d'Or. Puis il est disponible toujours aujourd'hui. Il peut pas, c'est la dynamique aussi parce que ce matin, j'ai seulement qu'un gardien à la pratique qu'on vient de débarquer. Ça change une dynamique pareil. Là. Mais le petit gars. Il va être là demain, mais lui avec, là, samedi, c'est faut que je me trouve un autre gardien parce que là, présentement, je n'ai juste un pour samedi, je n'ai pas deux parce que lui, il rentre dans les séries aussi, là, il est dans la LHPS. Donc, c'est une dynamique, regarde, on fait avec, mais tu sais, quand tu arrives dans un entraînement, que t'as le gérant de l'aréna qui c'est ton goaler de la pratique, mais on va faire les vraies affaires, là, c'est
un petit peu. Il y a un chauffeur de Zamboni qui a déjà gagné un match dans la Ligue nationale, alors tu vas peut-être y penser aussi. Je ne sais pas s'il y a l'âge, par exemple, c'est ça le problème. Maxime, au-delà des problèmes des gardiens de but, il reste que les Foreurs en ce moment. Vous êtes dans une situation, après que vous ayez échangé Justin Robida puis Alexandre Doucette, est-ce que vous pensiez que ce serait si difficile que ça en deuxième moitié de saison? Vous avez quoi, 8 victoires là, en deuxième moitié de saison seulement, puis vous retrouvez dans cette situation-là avant le départ là, de Pascal Daou, puis tout ça, est-ce qu'on se disait, en échangeant ces deux-là, est-ce qu'on se met en danger de ne pas participer aux séries?
Bien, écoute, on savait que ça aurait un impact là, quand tu échanges, je vais dire, nos deux capitaines. Là, Justin, c'est notre capitaine, vous connaissez l'impact qu'il a, puis c'est un joueur clé. Alexandre Doucet, il y avait... T'sais, je pense qu'il y avait, tu sais, là, il a scoré 50, il est rendu à 55, 56 buts, là, mais tu sais, il avait quand même 34 buts avec nous autres avant les fêtes. Tu sais, il était sur le premier désavantage numérique. Fait que, on savait que ça aurait un très, très gros impact. Mais tu sais, à un moment donné, on n'avait pas le choix de relancer la, tu sais, il fallait aller chercher le plus de choix au repêchage pour relancer notre organisation. Puis, je pense que, tu sais, oui, pour être honnête avec toi, oui, on savait que ça aurait un impact comme ça, mais on n'avait pas le choix, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu ailles chercher, tu sais, je veux dire, Justin, il nous a rapporté quand même, tu sais, Mathis Fernandez, un choix première ronde. Ensuite de ça, tu sais, Alexandre Doucet nous a ramené, tu sais, un choix de 1, 2, 3. Donc, c'est des grosses transactions à court terme qui font mal, mais à long terme, je pense que ça va être bénéfique pour l'organisation.
Comment se fait pour toi la transition d'occuper les deux postes, même si, bon, la période des échanges est finie? Là, dans le fond, tu n'as pas personne pour t'aider dans la recherche de gardien de but, là, c'est un dossier de DG, ça, d'habitude. C'est pas un dossier de coach, mais comment tu t'acclimates à tout ça?
Ben écoute, je m'assure de communiquer avec tout le monde. T'sais, notre groupe de recruteurs, j'ai travaillé avec eux, je les appelle. Ils m'ont beaucoup conseillé de ce côté-là par rapport à qui était disponible, qui voyait. Ensuite de ça, notre entraîneur des gardiens de but, Mario Barry également. Donc, je vais être honnête avec toi, t'as raison, là. C'est pas comme si c'est Julien Letourneau, je l'avais jamais vu gauler, là. T'sais, c'est les gars qui m'ont amené des noms, puis je leur ai fait confiance. Puis, mais t'sais, j'ai pas le choix de me fier au staff que j'ai sous la main, là.
Tu as parlé de Mario Barry. Est-ce que j'ai vu qu'il partait, qu'il annonçait sa retraite, Mario?
Oui, c'était très longtemps. C'était une journée pas mal émotive, là. Hier, Mario m'a annoncé ça mardi matin. Puis, c'est une journée pas mal émotive parce que Mario, c'est. Quand on parle des Foreurs, là, c'est Mario Barry, il a le logo tatoué sur le cœur. Ça fait, je suis pas capable de te dire le nombre d'années qu'il est ici. Là, ça doit faire proche de 10 ans qu'il est ici. Il est implanté ici maintenant. Ça fait quoi, 30 ans là, qu'il est au niveau du hockey junior. Il a coaché les Luongo, les Brodeurs.
Martin Brodeur, hein,
c'est ça. Puis, tu sais, Mario, c'est le premier arrivé à l'aréna tous les matins. Il est encore sur la glace présentement. Bref, c'est un passionné. Mais tu sais, regarde, il va rester avec l'organisation sous un autre rôle, mais il voulait, comment je peux dire ça? T'sais, c'était le temps pour lui de passer à d'autres choses, puis ça va toujours être un foreur, mais oui, c'est un gros morceau là, qui prend sa retraite présentement.
Votre bonne nouvelle en vue du duel contre les Huskies, c'est qu'ils traversent leur période la plus difficile de l'année. Là, ils ont seulement 4 buts comptés dans leurs 5 derniers matchs. Alors, ça va peut-être vous donner une chance. En même temps, je vais te laisser là-dessus. Est-ce que tu trouves que c'est un petit peu difficile d'être en lutte contre les Sea Dogs qui sont dans une division beaucoup plus facile que vous pour aller chercher des points au classement sans leur manquer de respect, évidemment? Là, on le sait que la division des Maritimes cette année, là, il y a 4 des 6 équipes, qui même presque 5 qui sont en reconstruction.
Écoute, si les gens ont du temps libre cet après-midi, là, vous irez voir le classement et leur fin de calendrier. Là. C'est évident qu'ils n'avaient pas le même calendrier que nous. Ouais. Puis même chose pour l'Armada. Là, l'Armada sont dans la même division que nous, donc eux aussi avaient un calendrier beaucoup plus difficile. Mais regarde, on finit contre Rouen. Ça, c'est des. Comment je pourrais dire? On pourrait se servir de ça comme excuse, mais en même temps. Regarde, c'est la cédule qu'on a, puis on joue 2 games contre Rouyn-Noranda. Comme tu dis, présentement, tant mieux si on peut profiter justement de leur petite séquence où leur confiance est un petit peu moins là. Puis, tu sais, là, je pense que justement, eux aussi, ils ont perdu un gardien. Je ne sais pas s'il va être de retour, mais bref, ça va être à nous de trouver la façon, justement, d'aller chercher cette victoire-là là, pour que, justement, que dimanche prochain, quand on va ouvrir le Journal de Montréal, qu'on soit dans les séries.
J'espère que tu vas ouvrir le site d'RDS aussi pour regarder les résultats, il n'y a pas de problème. Hey, merci beaucoup Maxime, salut, bonne journée et bonne chance pour les 2 derniers matchs.
Merci beaucoup Stéphane, bonne journée.
Alors c'est assez incroyable ce que les Foreurs de Val-d'Or vivent pour la gestion des gardiens de but. Est-ce que les Foreurs seront éliminés? Ça reste à voir évidemment. Chose certaine, les Sea Dogs, avec la victoire d'hier contre Charlottetown, se sont donné une bonne opportunité de participer aux séries éliminatoires, eux qui étaient derniers au classement à un certain moment. Alors, les Sea Dogs n'ont que 3 défaites en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs. Les autres luttes qu'il faut surveiller cette semaine dans la LHJMQ. Bon, dans l'Ouest, évidemment, on a parlé de Gatineau et Sherbrooke. On va régler ça un contre l'autre mercredi. Victoriaville va terminer au 3e rang, ça ne changera pas. Rouyn-Noranda va terminer au 4e rang. La lutte qui est intéressante pour le 5e et 6e rang, c'est entre Shawinigan et Drummondville. Shawinigan a 61 points présentement, Drummondville en a 59, mais attention, les deux équipes s'affrontent aller-retour vendredi et samedi. L'avantage du 5e ou du 6e rang, c'est peut-être d'éviter les Tigres de Victoriaville en première ronde. On sait que les Tigres ont quand même une très bonne équipe, 40 victoires. Alors l'équipe qui va terminer 5e va jouer contre Rouyn-Noranda. Sans manquer de respect aux Huskies. Et les 6e vont jouer contre les Tigres de Victoriaville. À un certain moment, Drummondville s'était éloigné de cette possibilité-là, mais quelques victoires dans les derniers matchs ont rapproché les Voltigeurs des Cataractes au 5e rang. En plus du duel entre un contre l'autre, Shawinigan joue contre Québec cette semaine et Drummondville joue justement contre Victoriaville. Donc ça, c'est une lutte à suivre. L'autre lutte qui est intéressante aussi, mis à part celle de la course aux séries dans l'Est, c'est la lutte entre Moncton, Rimouski et Chicoutimi pour les échelons 3, 4 et 5. Moncton est bien placé au 3e rang, 1 match de plus à jouer, il reste 3 matchs à jouer pour Moncton. Évidemment, dans la section plus faible des Maritimes, on joue contre le Cap-Breton, contre Bathurst et contre le Cap-Breton. Donc Moncton devrait probablement terminer au 3e rang. Alors, on aurait une série en première ronde entre Rimouski et Chicoutimi, 4e et 5e. Et là, présentement, les deux équipes ont exactement la même fiche. 32 victoires, 30 défaites, 4 défaites en bris d'égalité. C'est l'égalité exacte pour ces deux formations-là. Rimouski, 2 matchs à jouer contre Québec, ce ne sera pas facile. Chicoutimi, 2 matchs à jouer contre Baie-Comeau, alors peut-être un petit peu plus facile. Alors, est-ce que Chicoutimi pourrait terminer au 4e rang et avoir l'avantage de la glace en première ronde dans cette année où les Sags terminent leur 50e anniversaire, un peu comme les Olympiques de Gatineau? Au niveau des pointeurs, bien, il y a 2 autres joueurs qui ont atteint le plateau des 50 buts cette semaine, en plus d'Alexandre Doucette. On a Alexis Gendron et Jordan Dumais qui ont franchi le cap des 50 buts cette saison. On est maintenant à 6 joueurs au-dessus de 100 points. Dumais, Doucette, Lawrence, Zachary Bolduc, Riley Kidney et Théo Rochette. Dans le cas de Dumais et ses 130 points, c'est la première fois depuis la saison 2005-2006 qu'un joueur atteint le plateau des 130 points. Cette année-là, il y avait eu 3 joueurs qui avaient atteint ce plateau. Alexander Radulov à 152, Stanislav Lachek à 135 et Maxime Boitler à 130. Alors, ça fait quand même 17 ans qu'aucun joueur n'avait atteint le plateau des 130 points. Et dois-je rappeler que Dumais n'a que 18 ans. Il est admissible à revenir la saison prochaine. Alors, c'est doublement intéressant. Petite note également au niveau des défenseurs. Tristan Luneau des Olympiques avec 79 points et premier compteur chez les défenseurs. Il a fracassé la marque de l'histoire de la concession des Olympiques qui était de 78 points à une saison. C'est Yuri Fischer, l'ancien défenseur tchèque, qui avait réussi ça à la fin des années 90. Alors, Tristan Luneau qui éclipse une marque et lui aussi, n'a que 18 ans. Chez les défenseurs, toujours Étienne Morin des Wildcats de Moncton, qui n'a que 17 ans, lui, a atteint le plateau des 20 buts. Donc, Étienne Morin, qui est un espoir là, pour la séance de sélection de la Ligue nationale l'été prochain. C'est un excellent espoir. Le joueur de la semaine, bon, on en a parlé avec Maxime Desruisseaux, c'est Alexandre Doucette des Foreurs de Val-d'Or, qui en 3 matchs a récolté 4 buts et 4 passes pour 8 points. Donc, c'est la fin de la saison samedi prochain. Il reste 23 matchs à jouer cette semaine. Il y en a un mardi, il y en a 5 mercredi, 8 vendredi et les 9 derniers matchs samedi prochain. Donc, samedi prochain vers 19h le 25 mars, on aura le portrait complet de la première ronde des séries éliminatoires, série qui devrait s'amorcer le vendredi 31 mars. Pour nous mener évidemment jusqu'à la fin du mois de mai au prochain tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops en Colombie-Britannique. Mario Cecchini va devenir officiellement le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec le 8 mai. Présentement, l'intérim est assuré par Martin Lavallée, le commissaire adjoint, puisque Gilles Courtois a démissionné le 5 mars dernier. Pendant la conférence de presse cette semaine, évidemment, il y a eu beaucoup de questions au niveau des bagarres, au niveau des initiations et tout ça. Ce sont des sujets qui ont été longuement abordés. Je pense que dans nos différentes émissions, vous avez été à même de constater les commentaires là, au niveau des bagarres, au niveau des initiations et tout ça. Alors, j'ai voulu faire un petit brin de jasette seul à seul avec Mario Cecchini spécialement pour Sur la glace. Lui qui a été dans les dernières années le président des Alouettes de Montréal. Alors, il s'amène dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec un regard frais, un regard plus neuf. Voici ce petit entretien qu'on a fait au terme de la conférence de presse jeudi dernier.
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
D'abord, j'ai été surpris parce qu'effectivement, je m'attendais quand ce que Richard a décrit après cette rencontre-là, moi, je m'attendais à ce qu'il reste peut-être deux ou trois finalistes même. Puis c'est un peu ce qu'on m'avait laissé sous-entendre. Fait que la première réaction, ça a été surpris, flatté évidemment, honoré, mais surpris surtout. Et là, je te dirais de façon très transparente. L'hamster s'est fait aller, OK, ça veut dire, là, je savais pas qui était pour être propriétaire des Alouettes. C'est comme si, là, la vie disait, bien là, il faut que tu décides. Là, tu as une décision à prendre. Mais j'avais déjà dit au comité que mon cœur penchait de ce côté-là. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, ça a été comme 2 mois entre le coup, littéralement du 23 au 24 février, 2 mois de réflexion où tu lis, où tu apprends, où tu regardes. Puis là, bien, tu connais toi mieux que n'importe qui. Un peu, tu te rappelles l'évolution des nouvelles, là, pas très plaisantes, qui sortaient à ce moment-là. Puis dans mon cas, on dirait que ça renforçait un peu le positionnement. Pas le positionnement, mais la nature du mandat qui devenait aussi un mandat de société. Puis quand le comité de sélection m'a demandé « Pourquoi tu veux faire ça? » Ma réponse est allée du côté... Il y avait une réponse un peu plus longue, mais un des éléments, c'était vraiment de travailler avec les jeunes là, puis de changer ces mentalités-là. C'est un peu, dans tous mes mandats, à peu près ce que j'ai essayé de faire ou que j'ai eu à faire par la force des choses, l'évolution de la business. Tu sais comment que le média a changé dans les 25 dernières années. Fait que, c'est la fameuse phrase que le changement est la constante. Là. On dirait que ça venait me chercher. Puis là, bien, il y avait à redorer le blason un peu. Puis, fait que c'était... c'est un appel encore plus fort, je dirais ça comme ça.
Le défi que les Alouettes, parce qu'il faut que tu deals avec 18 équipes, avec des jeunes, avec 4 provinces, avec le gouvernement qui est mêlé là-dedans depuis un bout de temps, c'est un plus gros défi que de devenir président des Alouettes?
Je sais pas. Je vais te répondre à ça dans 3 ans. Peut-être un peu. Simplement, pas nécessairement les 18 équipes. Ça, je compare ça à un conseil d'administration. Même, j'ai eu la chance d'avoir un commissaire évoluer de très proche, étant président d'un club moi-même. Donc, de voir un commissaire travailler conjointement avec lui. Mais je pense que le défi, je pense que ce que tu touches quand tu dis le côté politique s'en mêle, le fait que tout le Québec surveille un peu, les parents qui sont concernés. Ma pensée va beaucoup aux parents aujourd'hui que l'enfant a 12, 13, 14, 15, avec beaucoup de talent, et qui envisage ça. Faut que ça soit automatique, que la LHJMQ, automatique, parce qu'on le mérite, que la LHJMQ soit le choix versus aller s'exporter ailleurs. Alors, c'est à eux que je pense beaucoup, qu'on va essayer de rassurer dans les prochaines années.
C'est quoi la première chose que tu as envie de changer?
Bien, je pense qu'elle est déjà là. Je pense que ce que Richard a exprimé en termes de bagarre, je me posais la question dans le mois de janvier puis dans le mois de février. Je savais que les batailles avaient baissé beaucoup, mais effectivement, une par 10 games à peu près, là, c'est la stats, mais c'était devenu tellement gros qu'il fallait vraiment, faut avoir l'espèce de courage de dire on va aller encore plus loin. Il faut que la sanction soit sévère. Puis là, il reste à parler de ça.
Les deux autres filles vont se
tuer? Écoute, j'ai pas eu encore de contact direct avec eux autres sur des textos. Honnêtement, je le souhaite, mais je veux pas faire d'ingérence aujourd'hui. Je veux pas commencer le mandat comme ça. Je connais pas leurs défis nécessairement. On va commencer par bien assimiler notre ligue. Mais je pense que la société, quand je parle d'être au diapason, je pense qu'on est rendu là.
La COVID a fait mal à plusieurs marchés. C'est pas évident en ce moment. Est-ce que tu es au courant de la situation de chacune des équipes? Est-ce que tu as pensé à ça un petit peu ou tu n'as pas eu le temps?
Sommairement, Stéphane, j'ai pas eu le temps de penser à ça en profondeur. Moi, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai posé beaucoup de questions, il n'y a aucune inquiétude pour 23 et 24 pour personne. À partir de là, ça me donne le temps de rentrer et de regarder ça.
Tu vas compter sur le programming d'une certaine façon?
Absolument. Oui, effectivement. Je suis convaincu. Quand j'ai lunché avec Gilles au mois de janvier, puis le gentleman que Gilles est, je suis convaincu que si j'ai des questions, il va prendre le téléphone et il va être probablement heureux de guider. C'est l'ensemble de sa vie. Il veut certainement que ça continue à grandir comme s'il était là. L'évolution, c'est ça. Alors, je suis convaincu qu'il va être là.
Alors, voilà pour un entretien quand même sommaire avec celui qui va prendre la place de Gilles Courteau officiellement le 8 mai prochain. On fait le tour un petit peu des autres circuits sans nécessairement y aller en profondeur. Vous dire que dans la Ligue M18-3A, la deuxième ronde est presque terminée. Ben, je dis la deuxième ronde, dans le fond, c'est la première ronde, parce que la première ronde, c'était la quart de finale de section qui opposait les équipes qui étaient en quatrième et en cinquième place. Mais les demi-finales de section, il y en avait 6. 5 de ces 6 séries sont terminées. Saint-Eustache a vaincu Amos. Laval-Montréal a vaincu Esther-Blondin. Lac-Saint-Louis a vaincu Châteauguay. La série Saint-Hyacinthe-Magog, c'est 2-2 dans un 3-5. Ça va se terminer le 21 mars à Saint-Hyacinthe. Et dans la dernière section, Séminaire-Saint-François a gagné 3-0. Trois-Rivières a gagné 3-0. De sorte que on aura maintenant 6 équipes qui vont faire partie des finales de section. C'est 6. Parmi dans ces 3 séries-là, les 3 gagnants vont officiellement se classer là, pour la première édition là, de ce qui va être, comment l'appeler un peu, le week-end des champions, le week-end des équipes qui aura lieu à Saint-Hyacinthe, le week-end de Pâques, 8 et 9 avril, ce qu'on va appeler la classique des champions. Il y a 3 équipes assurément là qui seront qualifiées. Et la quatrième équipe viendra des équipes qui auront perdu en cours de route. C'est un système dont je vous ai parlé un peu dans les dernières semaines. On aura l'occasion de suivre tout ça. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, il y a une seule équipe qui est officiellement éliminée dans la Ligue M18-3. Ce sont les Élites de Jonquière qui, après avoir perdu leurs 2 matchs contre le Collège Notre-Dame, ont également perdu leurs 2 matchs dans la ronde de relégation contre le Collège Charlemagne et contre Gatineau. Donc, c'est terminé pour les élites de Jonquière. Les autres équipes sont toutes toujours en action. Et c'est ce que voulait la Ligue M18-3A, tenter de garder les équipes en action le plus souvent possible. C'était le championnat canadien universitaire au cours du week-end. Ça se passait à l'Île-du-Prince-Édouard. Il y avait évidemment beaucoup d'espoir avec les Patriotes de l'UQTR qui se sont finalement inclinés en demi-finale samedi. Donc, on terminait avec la médaille de bronze, le troisième rang. Et je veux souligner que la victoire est allée aux Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi j'en parle? Ben, c'est que l'entraîneur-chef, c'est Gardiner McDougall. Le même Gardiner McDougall qui a conduit les Sea Dogs de Saint-John à la conquête de la Coupe Memorial l'été dernier à Saint-John. Vous vous souvenez, on avait congédié Gordy Dwyer pour aller chercher un entraîneur universitaire pour une période de quoi 5 semaines. C'était Gardiner McDougall. Il s'était amené avec, comment dirais-je, un côté original qu'on ne voit pas souvent. Les joueurs ont adoré jouer pour lui. Les Sea Dogs ont embarqué dans sa philosophie et ils ont gagné. Après sa conquête et le fait qu'il ait récupéré sa bague avec les Sea Dogs, ben, il est retourné à ses fonctions avec les Reds, les Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine? Ben, il a encore une fois gagné un championnat canadien à un autre niveau. Alors, Gardiner McDougall, un personnage pour le moins coloré, mais qui a le mérite de dire dans son CV qu'il gagne souvent. Et c'est quoi? C'était son 8e championnat universitaire. Alors, c'est assez phénoménal. Salutations à Gardiner McDougall. Toujours au niveau universitaire aux États-Unis, Lane Hudson, le 7 espoir du Canadien, a conduit les Terriers de l'Université de Boston à la conquête du championnat de la section Hockey East. Les Terriers qui vont maintenant prendre part aux finales régionales du Frozen Four. Et on suit ça parce que, pas tellement pour Lane Hudson, parce que lui, on ne s'attend pas à ce qu'il quitte l'université à la fin de la saison, mais dans le cas de Sean Farrell, un autre espoir du Canadien, lui, il joue pour l'Université Harvard. Alors, son prochain match, c'est ce vendredi, et ce sont des matchs à élimination simple. Alors, si Harvard devait perdre vendredi dans son match contre Ohio State, ben, ce serait la fin là, de la carrière universitaire de Farrell. Si jamais il gagne, il va jouer dimanche le 26. Si jamais Harvard gagne le 26, ben là, ils seront qualifiés pour le Frozen Four à Tampa. Et ça, ça nous mène le week-end du 6, 7 et 8 avril. Alors évidemment, s'il se rend jusque-là, la saison du Canadien va presque être terminée. Il va rester seulement que 2 matchs, les 12 et 13 avril. Si toutefois Farrell devait perdre en fin de semaine et son équipe n'est pas favorite là, de sa bracket, là, passez-moi l'expression anglaise, ben, il pourrait terminer sa saison vendredi ou dimanche. Et là, s'il voulait par la suite s'amener avec le Canadien, ben, il pourrait quand même rester 7 ou 8 matchs à jouer dans le cas de Farrell. On va surveiller ça, évidemment, la semaine prochaine. Rapidement, dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest, on est un peu à la même étape qu'on est au Québec. C'est évident qu'on approche là aussi de la fin de la saison. 15 des 16 équipes dans la Ligue de l'Ontario sont déjà qualifiées pour les séries et les éliminatoires. Il ne reste qu'à déterminer qui de Oshawa ou de Kingston va se classer comme 16e équipe. Les 67 d'Ottawa sont champions du calendrier régulier. Les 67 qui vont livrer une belle bataille et espèrent se qualifier pour la Coupe Memorial. Imaginez hein, si jamais les Olympiques de Gatineau l'emportaient et les 67 d'Ottawa l'emportaient, on les retrouverait les deux à la Coupe Memorial. Évidemment, il y a beaucoup de millages à faire d'ici ce temps-là, mais ça reste que c'est quand même une possibilité en Ontario. Donc, les 67 d'Ottawa qui sont champion du circuit. Dans l'Ouest, ben, c'est pas réglé encore le championnat de la saison régulière. Ça se dispute entre Winnipeg et Seattle. Présentement, Winnipeg a 4 points d'avance sur Seattle, mais Seattle a un match de plus à disputer. Ce qu'il faut retenir de la dernière semaine, de toute façon, dans la Ligue de l'Ouest, c'est que les Pats de Regina se sont officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires. C'est donc dire que Connor Bedard va participer aux séries. Connor Bedard a atteint le plateau des 70 buts au cours de la dernière semaine. Il a 141 points au total. Et 70 buts à l'âge de 17 ans au niveau junior, ce n'est pas arrivé si souvent que ça. En fait, depuis 1900, en tout et partout, là, c'est arrivé une vingtaine de fois, mais il y a beaucoup de ces saisons-là pour des joueurs de 17 ans à 70 buts qui remontent là, aux années 70-80. Si on se fie uniquement depuis le début des années 90, Pavel Brandel avait réussi ça avec les Hitmen de Calgary, 73 buts à 17 ans en 98-99. John Tavares, avec 72 buts à 16 ans, l'a fait en 2006-2007. Au Québec, Martin Gendron l'a fait avec 71 buts en 91-92. Eric Lindros l'a fait en 90-91, 71 buts aussi. Et Connor Bedard l'a fait maintenant en 22-23, 70 buts. Il lui reste deux matchs à jouer, donc pourrait atteindre ce que Pavel Brandel a fait en 98-99. Connor Bedard est tout simplement inarrêtable. C'est un phénomène et c'est le 8 mai prochain qu'on va savoir qui va gagner la loterie de la Ligue nationale de hockey. Je vous laisse en vous disant qu'on a un dernier match sur le web vendredi soir à rds.ca, un match gratuit. Les Tigres de Victoriaville contre le Phoenix de Sherbrooke. Ça devrait être un excellent duel qu'on vous présente, donc à 19h sur le rds.ca. Avant de terminer, je veux souligner ce soir, le 20 mars, la 3000e de l'Antichambre. Que de chemin parcouru là, depuis les 15 dernières années. 3000 émissions, c'est quand même pas rien. La gang de l'Antichambre a préparé un spécial de 90 minutes. Je vous invite à programmer vos enregistreurs si vous ne pouvez pas regarder en direct. Mais ce sera une belle façon là, de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette émission. J'ai la chance d'y être panéliste et animateur occasionnel. Là, comme je dis souvent, quand on est mal pris, blague à part, là, je suis très heureux de faire partie de cette équipe-là. Et c'est plein de beaux souvenirs quand je pense à l'Antichambre à laquelle j'ai le privilège de participer depuis une quinzaine d'années, à raison d'à peu près une vingtaine de fois par année. Alors, c'est ma contribution à l'Antichambre, mais c'est une émission, évidemment, qui est devenue un rituel pour les amateurs de sport en fin de soirée à RDS, qu'il y ait ou non des matchs. Donc, 21h30 à RDS, la 3000e de l'Antichambre ce soir. Voilà, c'est tout en ce qui concerne notre Sur la glace de cette semaine. Merci à François Perrault à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Mes invités, Caden Primo du Rocket de Laval, Maxime Desruisseaux des Foreurs de Val-d'Or et le nouveau commissaire de la LHGMQ, Mario Cecchini. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, on va parler des séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey, particulièrement dans la LHGMQ. Bye-bye tout le monde, à la prochaine.